Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, c'est une joie pour nous que de célébrer cette solennité du Sacré-Cœur. Cette fête est un résumé de tous les mystères de Dieu. Les philosophes de l'Antiquité ont fait de magnifiques études sur l'amitié. Et ils ont affirmé très nettement que l'amitié entre Dieu et l'homme n'est pas possible. Et pourquoi cela? Eh bien, à cause de la grande distance qu'il y a entre Dieu et l'homme. Dieu est si grand, Dieu est infini, et l'homme est si petit à ses yeux. Il y a une distance infinie entre Dieu et les hommes. Et donc, concluait-il, l'amitié entre Dieu et les hommes est impossible. Ce qu'on peut admirer dans ces philosophes de l'Antiquité, c'est leur profond sentiment de la majesté divine. Oui. Et aussi, ce que l'on peut constater, eh bien, c'est leur ignorance. Leur ignorance de la bonté infinie de Dieu. Et quant à nous, eh bien, nous croyons que la charité est une amitié singulière de l'homme avec Dieu. Comment osons-nous faire cette affirmation? Eh bien, c'est l'Église qui nous l'enseigne, et bien sûr, l'Église ne fait que de nous rappeler ce que Dieu lui-même a daigné nous enseigner, a daigné nous révéler. C'est lui-même qui nous a fait connaître cela, que cette amitié entre lui et nous est possible. Ce qui est impossible à imaginer avec l'intelligence humaine, eh bien, Dieu l'a réalisé. Nous croyons, bien sûr, mais avons-nous réfléchi sérieusement à cela? La charité est une vraie amitié avec Dieu. Au fond de nous-mêmes, est-ce que nous pouvons nous dire « Mes rapports avec Dieu sont des rapports d'amitié mêlés de respect et de vénération ?» Ou bien, est-ce que nos contacts avec Dieu sont un peu des contacts comme avec un étranger, un être qui est loin, de temps en temps on s'adresse à lui, mais qu'il n'y a pas d'amitié? Il faudrait qu'il y ait cette amitié entre Dieu et nous. Que nous ayons l'amitié. Il faudrait que nous ayons, vis-à-vis de Dieu, cette amitié que nous avons avec nos amis. En plus, bien sûr, le respect qui lui est dû. Dû à sa majesté, dû à sa grandeur, mais qu'il y ait cette amitié. Eh bien, la dévotion au Sacré-Cœur est particulièrement efficace pour nous mener vers cette amitié avec Dieu. Le Sacré-Cœur, c'est l'infinie majesté de Dieu, eh bien, qui se montre pour nous dire qu'il n'y a plus de distance entre Dieu et nous. Il a comblé cette distance par la grâce qu'il met en nous et qui nous élève jusqu'à lui. Quelle grâce, mes bien chers fidèles! Une grâce qui nous élève dans l'amitié avec Dieu. Quand Jésus montrait à Sainte Marguerite son cœur passionné d'amour pour les hommes, et incapable de contenir plus longtemps les flammes qui le dévoraient, désirant faire part à tous des richesses infinies de son cœur, que voulait-il? Eh bien, il voulait attirer l'attention des hommes sur cet amour. Il voulait amener les hommes à lui rendre hommage. Il voulait les inviter à puiser dans ce cœur infiniment riche. Et quel but? Le Sacré-Cœur veut que nous nous proposions en lui rendant cet honneur. Eh bien, ce qu'il veut, c'est que nous lui rendions amour pour amour. Voilà. Sainte Marguerite Marie écrivait au Père Croisé, « Il m'était montré un cœur toujours présent, jetant les flammes de toutes parts avec ses paroles. Si tu savais combien je suis altéré de me faire aimer des hommes, tu n'épargnes rien pour cela. J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que Dieu a pu imaginer? Se faire mendiant de notre amour, de notre... Qui sommes-nous? Lui qui n'a pas besoin de nous, se fait mendiant de notre amour. Eh bien, cette dévotion au Sacré-Cœur est comme un dernier effort de l'amour de notre Seigneur, de l'amour de Dieu, pour nous mettre sous la douce liberté de l'empire de son amour. Quand le pape Pie IX, en 1856, étendait la fête du Sacré-Cœur à l'Église entière, c'était afin de fournir aux fidèles des stimulants pour aimer et payer d'amour le cœur de celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang précieux. Le pape Léon XIII a répété le même enseignement et il nous dit, dans son encyclique du 28 juin 1889, « Jésus n'a pas de désir plus ardent que de voir allumer dans les âmes le feu d'amour dont son propre cœur est dévoré. Allons donc à celui qui ne nous demande comme prix de sa charité que la réciprocité de l'amour. » Mais sous cette image bénie de ce cœur adorable, nous sommes invités à contempler le principe et la raison intime de tous les mystères de la rédemption. Eh oui. Car toutes les œuvres de Dieu, toutes, même les œuvres ad intra, comme celles ad extra, sont des œuvres d'amour, qui ne procèdent que de l'amour. Dieu est amour et son cœur éternel a toujours aimé. Dieu ne nous a pas seulement aimés d'un amour de parole, mais aussi d'un amour effectif, dans les faits. Qu'est-ce que c'est que aimer? Si on nous posait la question, on parle d'aimer, ça veut dire quoi aimer? C'est quoi aimer? Le véritable amour, c'est quoi? Eh bien, essayons de regarder en Dieu ce que c'est que aimer. Puisqu'on dit que Dieu nous aime, comment nous a-t-il aimés? Aimer, eh bien, signifie se donner. Eh bien, Dieu nous a tout donné par la création. Il nous a mis dans ce monde où tout a été fait pour l'homme. Tout a été fait pour que l'homme soit le maître, qu'il s'en serve pour rendre gloire à Dieu, qu'il s'en serve pour découvrir Dieu, qu'il s'en serve pour, oui, louer Dieu, pour se nourrir, pour s'entretenir, bien sûr. Voilà. Dieu a tout donné. Aimer, c'est quoi encore? Aimer, eh bien, c'est parler pour se faire comprendre à celui qu'on aime. Eh bien, Dieu nous a parlé. Dieu s'est révélé à nous. Voilà la révélation. Dieu s'est fait connaître à nous. C'est quoi encore aimer? Aimer, c'est se rendre semblable à celui qu'on aime. On imite ceux qu'on aime. Eh bien, là encore, Dieu nous a aimés. Il s'est rendu semblable à nous, en s'incarnant, en prenant un corps, en prenant une chair comme la nôtre, en s'unissant à la nature humaine. Il s'est fait semblable à nous. par amour pour nous. C'est un acte d'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est encore aimer? Aimer, c'est souffrir pour celui qu'on aime. Voyez par exemple une maman. Qu'est-ce qu'elle peut souffrir lorsqu'un de ses enfants est en danger ou gravement malade? Elle souffre elle-même. Aimer, c'est souffrir pour celui qu'on aime. Eh bien, Dieu nous a aimés de cet amour par le mystère de la rédemption. Voyez. Il a voulu souffrir par amour pour nous. Voyez. Pour que nous n'ayons pas à souffrir de nos fautes. Aimer, c'est quoi encore? Aimer, eh bien, c'est de vivre à côté de celui qu'on aime. Eh bien, Dieu nous a aimés de cet amour. Par la Sainte Eucharistie, il reste auprès de nous, il vit avec nous ici-bas. Nous pouvons le voir chaque fois que nous allons dans une église, dans une chapelle. Nous pouvons être avec celui qui nous aime et nous pouvons aussi l'aimer. Oui, il est là réellement. Oui, il nous a aimés de cet amour qui est de vivre à côté de celui qu'on aime. Aimer, c'est quoi encore? Eh bien, aimer, c'est ne faire qu'un avec celui qu'on aime. Et là encore, Dieu nous a aimés de cet amour par la Sainte Communion. Par cela, nous nous unissons à Dieu intimement, profondément. Aimer, c'est quoi encore? Aimer, c'est se réjouir avec l'être aimé. Et là encore, Dieu nous aime de cette façon. Puis c'est le paradis où nous nous réjouirons en Dieu, où nous partagerons son bonheur, nous partagerons sa joie. Voilà. Voilà ce que c'est que aimer. Voilà de quel amour Dieu nous a aimés. Eh bien, le cœur de Jésus, qui est la deuxième personne de la très sainte Trinité, elle synthétise, elle résume toutes les manifestations d'amour de Dieu. Oh, si nous connaissions mieux le don de Dieu, c'est ce qu'il disait à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, bien nous pouvons nous dire cela, si nous connaissions le don de Dieu, si nous vivions de manière à mériter, à goûter ce don de Dieu, si nous savions mieux comprendre l'esprit qui doit animer le culte vrai du cœur de Jésus, si nous étions disposés à ne plus vivre que de sa vie, à ne plus aimer que par son amour, à n'agir que dans ses saintes intentions, en le faisant faire en nous et de nous selon son bon plaisir, alors nous nous persuaderions qu'aucune autre dévotion n'exige autant de promptitude au sacrifice, autant de renoncement à soi-même, autant de générosité dans le bien, autant de pureté dans la vie, autant de patience à l'égard du prochain, autant d'ardeur dans l'apostolat. Et oui, il y a tout dans, dans cette dévotion au Sacré-Cœur. C'est l'amour divin qui s'impose doucement, mais avec fermeté et majesté à l'amour humain, et qui réussit à triompher d'une manière complète, stable et définitive de toutes les misères et de toutes les faiblesses, de toutes les manifestations de l'égoïsme et de la sensualité. Plus nous aimerons, plus nous aurons cette dévotion profonde et vraie au cœur sacré de Jésus, plus nous serons forts, plus nous serons éloignés des péchés, plus nous serons forts, plus nous aurons la haine du péché, plus nous aurons l'horreur d'offenser Dieu par le péché. Oui. Alors aimons, aimons ce cœur sacré, cet unique amour de nos âmes, qui plus que le Sacré-Cœur nous aime? Personne, personne. Il suffit de l'aimer pour devenir saint. Il transfigure et féconde toute notre vie intérieure. Il est la source intarissable d'abnégation et de paix. Il suffit de l'imiter pour infuser à notre faiblesse la force de celui qui a vaincu le monde. Aimons souvent à faire des actes d'amour. Des actes d'amour d'intérieur, ça nous fait croître vers Dieu. Saint Jean de la Croix nous dit, le plus petit acte de pur amour a plus d'importance aux yeux de Dieu et plus d'utilité pour l'Église et pour soi que toutes les œuvres réunies, dépourvues d'amour ou accompagnées d'une charité très faible et imparfaite. Une petite œuvre que nous faisons par amour pour Dieu, un renoncement que nous faisons par amour pour Dieu, un sacrifice que nous faisons par amour pour Dieu, a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Elle vaut plus que de construire des locatifs et des locatifs, des villes et des routes. Ou bien les petits actes d'amour, par exemple, ces petites invocations, Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Sauver les âmes, sauver les consacrés. Ça a une grande valeur. D'une part, ça nous aide à nous mettre en présence de Dieu. Ça nous porte à l'aimer toujours plus. Ça nous fait grandir dans la charité. Ça nous fait lever davantage. Ça nous attache davantage à lui. Ou bien de dire, doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Dieu écoute ces petites invocations qui viennent du cœur. Faisons-les souvent tout au long de nos journées, tout en respirant, même en répétant plusieurs fois. Voilà. Ça garde notre pensée, ça nous garde attachés à Dieu. Aimer le cœur de Jésus signifie savoir beaucoup souffrir, en silence et avec le sourire sur les lèvres. Souffrir discrètement, que cette souffrance ne soit connue que de Dieu. Aimer le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus veut dire nous oublier nous-mêmes, ainsi que nos misères pour ne penser uniquement qu'à lui. Et à notre prochain par amour pour lui. Aimer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est se relever promptement si nous avons le malheur de tomber dans nos péchés. Oui. C'est ne pas rester dans cette inimitié avec Dieu. Non, aimer le cœur de Jésus, c'est vouloir cette amitié. C'est être terriblement triste d'être coupé de cette amitié. Oui. Celui qui se fait aimable en tout se fait nécessairement aimer. Or, si nous nous appliquions à considérer tous les beaux rapports sous lesquels Jésus-Christ se rend aimable, nous serions tous dans la bienheureuse nécessité de l'aimer. Ce cœur de Jésus, ce cœur est tout pur, il est tout saint, tout embrasé de l'amour divin. Il ne désire que la gloire divine, la gloire du Père et le salut de nos âmes. Voilà le cœur dans lequel le Seigneur trouve tous ses délices et toutes ses complaisances. Voilà le cœur dans lequel règnent toutes les perfections et toutes les vertus. Un amour ardent vers Dieu son Père, uni à la plus grande humilité et au plus profond respect qu'il lui soit possible. Une souveraine confusion de nos péchés, desquels il a bien voulu se charger, unie à la plus parfaite confiance que puisse avoir un fils envers son Père. Il y a dans ce cœur de Jésus aussi une souveraine horreur de nos péchés, unie à la plus vive compassion de nos misères. Et encore, il y a dans ce cœur de Jésus une souveraine douleur unis à la plus parfaite conformité à la volonté divine. Ainsi, on trouve en Jésus tout ce qu'il peut y avoir d'aimable. Ô mes bien chers fidèles, si nous pouvions comprendre l'amour qui brûle pour nous dans le cœur de Jésus, il nous a tant aimés que si tous les anges, si tous les saints, si tous les hommes, avec toute leur puissance, s'unissaient pour aimer, tous ces amours réunis ne feraient pas la millième partie de l'amour que Jésus nous porte. Il nous aime immensément plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. Oui, ce cœur nous a aimés jusqu'à l'excès. Et quel plus grand excès d'amour peut-on concevoir que celui par lequel Dieu meurt, un Dieu meurt pour ses créatures. Oui, il nous a aimés jusqu'à l'extrémité. Ce Dieu nous a aimés durant l'éternité, de sorte qu'il n'y a point eu d'instant où il n'ait pas pensé à nous et n'ait aimé chacun de nous en particulier. Oui, même avant que nous fussions nés, même avant que nous fussions conçus, le bon Dieu nous aimait, le Sacré-Cœur nous aimait. Et que n'a-t-il pas fait par amour pour nous? Il s'est fait homme, il a choisi une vie pénible et la mort de la croix pour nous racheter. En sorte qu'il nous a aimés plus qu'il n'a aimé son honneur, plus qu'il n'a aimé son repos, plus qu'il n'a aimé sa propre vie. Il a tout sacrifié pour nous faire connaître l'amour qu'il nous porte. Il ne s'est rien épargné par amour pour nous. N'est-ce pas là un excès de charité, propre à remplir d'étonnement les anges même durant toute l'éternité? Cet amour l'a encore porté à demeurer avec nous dans le Saint-Sacrement, comme sur un trône d'amour. Puisqu'il n'a plus là que l'apparence d'un peu de pain, qu'il y est enfermé dans un ciboire où il paraît demeurer dans un complet anéantissement, sans faire le moindre mouvement, ni aucun usage de ses sens. Il semble donc n'y remplir d'aucun autre office que celui d'aimer les hommes. L'amour fait désirer la présence continuelle de l'objet aimé. Cet amour et ce désir font demeurer Jésus-Christ avec nous dans le Saint-Sacrement. Trente-trois années passées avec les hommes sur la terre paraissent un temps court à cet aimant Seigneur. Aussi, pour contenter le désir qu'il a de demeurer toujours avec nous, il a jugé nécessaire d'opérer le plus grand de tous les miracles, comme le fut l'institution de l'Eucharistie. Mais l'œuvre de la rédemption était déjà accomplie. Les hommes étaient déjà réconciliés avec Dieu. À quoi pouvait servir la présence de Jésus sur la terre dans ce sacrement? Ah, Jésus demeure avec nous parce qu'il ne sait pas se séparer de nous. Cet amour l'a conduit jusqu'à devenir la nourriture de nos âmes, afin de s'unir à nous et de faire de nous, de nos cœurs et du sien, une seule et même chose. Celui qui mange ma chair demeure en moi et moi en lui. Ô étonnement, ô excès de l'amour divin, faites donc que les hommes vous connaissent, faites donc que les hommes vous aiment. Et cela n'a pas encore suffi. Le Sacré-Cœur a voulu encore venir dans chacun de nos foyers. Il veut vraiment vivre au milieu de nous. Il ne veut pas seulement être dans l'Église pour qu'on vienne le trouver le dimanche et peut-être quelques fois en semaine. Il veut aller jusque dans nos foyers. C'est pourquoi il a suscité, au début de ce siècle, le Père Matteo, qu'il a guéri miraculeusement à Paray le Monial, pour introniser le Sacré-Cœur dans les familles. L'intronisation du Sacré-Cœur est plus que de mettre une image ou une statue dans la maison. C'est davantage. Pour l'intronisation, il y a une petite cérémonie et vraiment, Jésus reste dans le foyer. Il reste dans le foyer pour obtenir de nombreuses grâces à tous ses membres, pour vivre avec eux, pour leur apprendre à aimer, pour leur apprendre à se sanctifier, pour leur apprendre à se vaincre de leurs défauts et à acquérir les vertus dont il a été le modèle parfait. Ouvrez donc vos familles, ouvrez vos foyers à Jésus, laissez-le venir. Il frappe à chacune des portes, ce Jésus qui est rejeté de partout. Trouvera-t-il la porte de nos foyers fermée comme à Bethléem ? Accueillons le Sacré-Cœur dans nos familles. Pourquoi veut-il venir, justement, comme je vous le disais, pour apporter, pour combler de bienfaits tous les membres de la famille, pour apporter protection ? Vous avez certainement eu l'occasion de lire les promesses que le Sacré-Cœur fait à ceux qui auront la dévotion envers son cœur. Et il y a, grâce à Dieu, déjà les familles qui l'ont accueilli, qui l'aiment, qui le vénèrent, qui l'honorent, qui le prient et qui renouvellent chaque jour la petite consécration. Eh bien, les foyers qui n'ont encore pas eu l'immense bonheur de recevoir le Sacré-Cœur, préparez-vous. Choisissez une date, la date qui vous convient le mieux, une date qui marque le foyer, afin que chaque année vous puissiez célébrer l'anniversaire de la venue de Jésus dans vos foyers. Accueillez donc ce Sacré-Cœur. Vous en serez les premiers bénéficiaires. Si Jésus venait sur la terre et qu'il demanderait à venir dans nos foyers, quel accueil ne le ferions-nous pas ? Bien, c'est exactement ça. Nous ne le voyons pas, bien sûr, des yeux de chair, mais il est réellement dans le foyer. Il y a une présence spirituelle. Lorsqu'on lit toute l'œuvre de l'intronisation du Sacré-Cœur, on voit combien de miracles ont été réalisés depuis que le Sacré-Cœur est entré dans les familles, et surtout des miracles de conversion. Combien les familles se sont sanctifiées, ont grandi dans l'amour de Dieu. Voilà, et bien la fraternité a relancé ces intronisations du Sacré-Cœur. Tâchez d'accueillir le Sacré-Cœur dans vos familles, afin que vous puissiez l'aimer toujours davantage, avoir une grande dévotion. En 315, Constantin devait livrer une bataille importante au pont Milvius. Eh bien, c'est grâce au Labarum qui est apparu dans le ciel qu'il a vaincu, qu'il a gagné la victoire. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un nouveau Labarum. Eh bien, c'est le Sacré-Cœur. C'est lui-même qui a dit à une âme privilégiée qu'il avait réservé cela pour la fin des temps, pour les temps où la charité se refroidirait. Eh bien, nous sommes dans cette période. Il s'est servi de Sainte Marguerite Marie pour étendre cette dévotion. Et l'on remarque aussi dans l'histoire que chaque fois que le Sacré-Cœur avait demandé quelque chose et que les autorités n'ont pas accepté, il ne s'ensuivit que des malheurs. Et en 1689, Sainte Marguerite Marie a écrit au roi Louis XIV, qui était à ce moment-là roi de France, pour lui demander de consacrer le pays, la France au Sacré-Cœur et de mettre l'image du Sacré-Cœur sur les armes. Il a refusé. 100 ans après, il y a eu la Révolution française, terrible révolution dont nous souffrons encore aujourd'hui. Au début de ce siècle, Claire Ferchaud, le Sacré-Cœur avait demandé aux autorités de France, et entre autres, elle s'est adressée à Poincaré, pour demander aussi de mettre les armes du Sacré-Cœur sur le drapeau de la France. Et s'il faisait cela, et s'il consacrait son pays au Sacré-Cœur, eh bien la France serait devenue de nouveau le grand pays chrétien, christianisant le monde. Et il a refusé. Et nous voyons maintenant où ce pays se trouve, et nous le suivons, malheureusement. Et donc, laissons venir au moins le Sacré-Cœur dans nos familles. Si toutes les familles accueillent le Sacré-Cœur, eh bien très vite, nos régions, nos pays seront re-christianisés. Oui. Il veut être le roi, il veut être l'ami, il veut être le confident. Alors mes bien chers fidèles, ayons une dévotion, une grande dévotion durant ce mois de juin, mois du Sacré-Cœur. Dévotion qui nous fera grandir dans cette amitié avec Dieu. Et posons-nous souvent cette question, au fond, est-ce que vraiment je suis l'ami de Dieu? Est-ce que je me comporte avec Dieu comme avec un ami? Est-ce que je me réjouis de le voir, de lui faire des visites? Est-ce que je pense à lui faire plaisir? Les amis, ils pensent l'un à l'autre. Voyez, c'est ça. Eh bien, est-ce que nous avons cette manière d'agir avec Dieu? Voilà. Tout en ayant le respect, bien sûr, qui lui est dû, car il est Dieu. Alors, mes bien chers fidèles, exerçons-nous, voyez. Ce cœur désire embraser tous les hommes, tous les cœurs. Et quelle est la vie qu'il veut répandre en nous? Eh bien, c'est la vie même de Jésus. Et c'est ce qui faisait dire à Saint Paul, qui avait bien, très bien compris cela. Saint Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Eh bien, c'est ce que veut réaliser le Sacré-Cœur de Jésus. Il veut que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Jésus-Christ qui vive en nous. Jésus est si intimement uni à nous que son esprit croit, que son esprit espère, que son esprit aime en nos âmes. Et c'est parce qu'il forme en nous cette foi, cette espérance et cet amour. Et alors, par conséquent, croire en Dieu, espérer en Dieu et aimer Dieu, ce sont les opérations toutes divines que l'âme n'aurait jamais sans l'opération, sans l'union, sans la communication de l'Esprit de Dieu. La vie qui vient du Sacré-Cœur rend une âme si semblable à Jésus qu'il semble que Jésus vive en elle. C'est ce qui a été pour les saints. Les saints qui rayonnaient la vertu, qui rayonnaient l'exemple de Jésus. Les saints ont imité les vertus de notre Seigneur. Certains ont imité plutôt une vertu que l'autre, comme Saint François d'Assise a imité davantage la vertu de pauvreté, etc. D'autres saints davantage l'amour de notre Seigneur. Eh bien, c'est Jésus-Christ qui vivait en eux. Et c'est ce que veut notre Seigneur, c'est ce que veut le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est aussi la source de sainteté. Voilà. Dans le cœur de Jésus, la vie et la sainteté ne se séparent pas. Une âme qui a puisé la vie à cette source intarissable avec les vertus de foi, d'espérance et de charité reçoit aussi des lumières qui la portent à la compunction, à la prière, à la crainte, à la ferveur. La sainteté, c'est la vie surnaturelle se communiquant complètement, d'une manière imparfaite ici-bas, mais d'une manière parfaite au ciel. Voilà. C'est la condition des bienheureux. On est saint lorsque non seulement on reçoit les influences divines dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre vie, mais qu'on a reçu dans son âme la grâce sanctifiante et toutes les vertus surnaturelles, et avec elles, bien sûr, Dieu. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Voilà l'âme, la condition de l'âme sainte. Il n'y a pas de sainteté possible sans la grâce sanctifiante. Et si par une générosité exceptionnelle, on a développé en nous, dans une mesure héroïque, l'habitation de Dieu, la grâce et les vertus surnaturelles, alors on mérite le titre de saint à un titre plus parfait. Voilà. Il faut donc pratiquer la vertu d'une façon héroïque pour atteindre ce degré de sainteté plus parfait. De toute cette vie de sainteté, plus parfaite ou ordinaire, le centre, eh bien, c'est le cœur de Jésus. Voilà. C'est son amour dont les palpitations font jaillir dans les âmes les lumières, les ardeurs, la ferveur, les générosités, les joies divines. C'est lui qui meut tout cela en nous. Et malheureusement, nous mettons bien des obstacles. Et nous empêchons bien souvent ce cœur de Jésus de répandre pleinement la vie en nous et ainsi de faire produire ces œuvres qui peuvent provenir que des êtres ayant la vie. Alors c'est pourquoi nous sommes si souvent tièdes, si peu généreux, avec si peu de charité, parce que nous mettons obstacle à ce désir du Sacré-Cœur de vouloir se répandre sa vie en nous. Le cœur de Jésus voudrait faire de nous, comme pour les saints, des sources de sainteté qui, recevant de la plénitude de vie et de sainteté, les répandent autour d'eux. Voilà. Comme ont été les saints, Dieu s'est servi de ses saints pour répandre la vie, les grâces autour d'eux. Voilà. Comme des sources. Ils participent à cette source première du cœur de Jésus. Et alors, eh bien, combien ces saints, par quelques paroles, par leurs actions, par l'exemple, ont apporté du bien à ceux qui les entouraient, ceux qui venaient les voir, les honorer, les vénérer. Voilà. Alors, eh bien, chers fidèles, eh bien, il nous faut demander à ce Sacré-Cœur, que nous puissions comprendre toujours davantage ces richesses cachées dans le cœur de Jésus. Non seulement cela, mais aussi que nous puissions grandir dans cet amour, que nous ne soyons pas ces ingrats, que nous n'ayons pas à recevoir ce reproche que faisait le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie en montrant son cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en échange ne reçoivent que de l'ingratitude. Eh bien, ne soyons pas ingrats envers ce Sacré-Cœur de notre Seigneur qui n'a pas su faire mieux pour nous montrer combien il nous aimait. N'endurcissons pas nos cœurs. Au contraire, dilatons-les, laissons répandre en nous, autant de nos cœurs, tous les obstacles qui pourraient empêcher cette œuvre du Sacré-Cœur en nos âmes, pour que ce soit lui qui vive en nous, que nous vivions vraiment, que nous soyons comme d'autres Christ, rayonnant ses vertus. Demandons cela, bien sûr, par le cœur immaculé de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, bien de nous obtenir cette grâce, voilà, d'entrer dans cette amitié qui est la charité, nous dit saint Thomas d'Aquin, cette amitié avec Dieu. Quel bonheur pour nous que Dieu l'a fait ainsi. Il ne manque plus que nous rendions cet amour pour l'amour qu'il a pour nous. Bien supplions Notre-Dame de nous obtenir cette grâce et de vivre dans cette amitié avec Dieu. Et alors notre attitude vis-à-vis du prochain sera tout différente. Voyez, cette amitié que nous aurons avec Dieu se portera pour notre prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la vue de ce miracle, de la pêche miraculeuse, les apôtres furent saisis de crainte, nous dit l'évangéliste. Et Saint-Pierre, lui, tomba aux pieds de Jésus en lui disant, « Maître, Seigneur, retirez-vous de moi, car je suis un pécheur. » Oui. Cette crainte qu'ont eue les apôtres et Saint-Pierre, c'est Dieu qui leur a mis dans l'âme. Afin de les émouvoir et de les tirer de l'apathie où les avait jetés le péché. Mais aussi, s'il leur a mis cette crainte dans leur âme, c'est pour les conduire à l'espérance. Cette attitude des apôtres, cette crainte qu'avaient eu les apôtres, eh bien, devrait aider nos dispositions du cœur lorsque nous nous préparons à recevoir la Sainte Eucharistie. Oui. Car en fait, c'est ce même notre Seigneur que nous recevons sous la forme de la petite hostie, celui qui avait fait ce miracle, qui avait jeté dans la stupeur, dans la crainte les apôtres. Qui est cet homme ? Eux, ils avaient pêché toute la nuit. C'était un temps favorable pour la pêche, la nuit. Et les pêcheurs le savaient, et ils n'ont rien eu. Et en général, s'ils n'ont rien eu la nuit, la journée, il ne faut pas compter dessus. C'est encore plus difficile. Eh bien, contrairement à tout ce qui se faisait d'habitude, eh bien là, ils ont eu cette pêche miraculeuse. Alors, ils voient notre Seigneur vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Hein, qui est maître des éléments, maître de la nature. Eh bien, c'est ce même notre Seigneur que nous recevons dans la communion. Comme il nous est si facile de communier, même tous les jours, alors nous nous laissons entraîner par une certaine habitude. Nous manquons de préparer nos cœurs à la venue de notre Seigneur, à cette réception. Lorsque notre Seigneur a voulu se donner à ses apôtres dans le sacrement de son corps et de son sang précieux, le joli saint, bien que les apôtres étaient déjà purs, cependant, il leur a lavé les pieds. Et pourquoi cela ? Eh bien, pour nous instruire aussi, pour nous faire comprendre que nous ne devons rien négliger pour nous mettre en état de grâce lorsque nous allons recevoir les saints mystères. Eh oui, nous devons soigner cela. N'oublions pas non plus que si l'on reçoit toute l'abondance des dons de Dieu quand on participe à l'Eucharistie, avec un cœur bien disposé et parfaitement préparé, on y trouve au contraire les inconvénients et les malheurs les plus grands lorsqu'on reçoit la Sainte Eucharistie sans la préparation nécessaire. Et oui, la Sainte Eucharistie a cette vertu, voilà, d'apporter de grands bienfaits ou d'attirer les malheurs, selon les dispositions qu'on apporte. Les choses les plus excellentes et les plus salutaires ont cela de particulier. Elles produisent les plus heureux effets si l'on s'en sert à propos, et qu'elles sont au contraire mauvaises si on les emploie à contre-temps. Alors il n'est pas étonnant que ces dons si précieux et si brillants de la plus haute bonté de Dieu, lorsque nous les recevons dans un cœur bien préparé, soient pour nous un puissant secours capable de nous obtenir la gloire du ciel. Et par contre, ils nous apportent la mort éternelle si nous avons le malheur de les recevoir indignement. Dans l'Ancien Testament, il y a un fait qui peut nous aider un peu à comprendre aussi cela. Vous savez que les Israélites, lorsqu'ils étaient entrés dans la terre promise, ils emportaient toujours avec eux l'arche d'alliance. C'était la présence de Dieu parmi eux. C'était le secours de Dieu. Et un jour, eh bien, les Philistins allaient leur faire la guerre. Alors ils étaient découragés de voir la multitude de Philistins qui étaient arrivés. Et tout d'un coup, ils ont pensé à l'Arche d'Alliance. « Mais nous allons amener l'Arche d'Alliance au milieu de notre camp et nous serons les vainqueurs. » Alors, ils ont fait venir l'Arche d'Alliance. Et lorsque l'Arche d'Alliance a paru dans le camp, tous les Israélites se sont mis à crier de joie en se disant « Ça y est, cette fois-ci, c'est la victoire. » Malheureusement, c'est que le peuple s'était détourné du... avait déplu au bon Dieu. C'était du temps du prêtre, du grand prêtre Élie, qui était lâche, qui n'avait pas su reprendre ses enfants et qui avait un peu, il y a eu de relâchement dans le peuple israélite. Et les Philistins ont eu une certaine crainte et ils ont été ressaisis. Puis la bataille était livrée et les Israélites, eh bien, n'ont pas eu la victoire. Pourtant, ils avaient l'Arche d'Alliance avec eux. Les Israélites, les Philistins, pardon, ont pris l'Arche d'Alliance, se sont dit, ça y est, eh bien, c'est là qu'ils trouvent toute leur puissance, toute leur force, leur secours, eh bien, nous allons le prendre chez nous. Ils l'ont emporté chez eux, eh bien, ils ont été terriblement châtiés par Dieu, il y a eu des pestes, des maladies, enfin, de toutes sortes, un grand nombre de ces Philistins périrent, si bien qu'à un moment donné, ils se sont décidés de renvoyer cette Arche d'Alliance. Pour eux, il était une source de tous les malheurs. C'est un peu une idée, vous voyez, c'est une comparaison qu'on peut faire. Autant il était nécessaire au peuple israélite, lorsqu'ils étaient, bien sûr, obéissants à Dieu, autant il était terrible dans le camp des ennemis. Bien, c'est un peu la même chose pour la Sainte Eucharistie. Oui. Selon les dispositions de nos cœurs, elle nous portera des fruits ou elle nous attirera les châtiments de Dieu, surtout l'éternel. Aussi une petite image qui peut nous aider à comprendre. Eh bien, voyez, lorsque nous prenons une nourriture, si notre estomac est bien préparé, cette nourriture nous sera profitable. Elle fortifiera notre corps. Mais si l'estomac est mal disposé, tout ça, alors ça n'ira qu'en empirant. On tirera toutes sortes de maladies, de maux. Voilà. Si l'estomac n'est pas disposé à recevoir de la nourriture. Alors, mes chers fidèles, il faut nous approcher de la table sainte avec des dispositions. Il faut que nous préparions nos cœurs. La première disposition que nous donne le Concile de Trente, c'est de croire fermement que la Sainte Eucharistie renferme le vrai corps et le vrai sang de ce même Dieu que les anges adorent dans le ciel. De ce même Dieu qui fait trembler par ses ordres les colonnes du ciel. De ce même Dieu dont la gloire remplit le ciel et la terre. Voilà. Il faudrait que nous nous rappelions cela. Qu'est-ce que je vais recevoir? Où est-ce que je vais? Je vais à la table sainte. Qui va venir en moi? Ce Dieu. Ce Dieu de majesté, dont la gloire remplit le ciel et la terre, qui fait trembler les anges et tous les éléments. Ce matin, il y a eu un peu le tonnerre, c'est un peu éloigné, mais si nous étions plus près, voyez, il y a de quoi nous effrayer par la puissance de ces éléments naturels. Et qu'est-ce que c'est ça par rapport à Dieu? Eh bien, ce Dieu que nous recevons dans la Sainte Eucharistie, c'est ce Dieu qui est le maître de l'univers, le roi des rois. Alors il nous faut déjà nous approcher avec cet esprit de foi, nous le dire, voyez, il faut, c'est ça vivre de la foi, c'est d'abord connaître ces vérités et puis nous conformer à ces vérités, entrer dans les sentiments que doivent imprimer en nous sévérité. La deuxième disposition, qui est absolument indispensable, c'est de nous demander à nous-mêmes, est-ce que nous sommes en paix avec les autres? Est-ce que nous aimons notre prochain sincèrement et du fond du cœur? Il faut se rappeler à l'esprit cette parole de notre Seigneur qui nous dit, si quelqu'un s'approche pour offrir un don à l'autel de notre Seigneur, qu'il se souvienne si son frère a quelque chose contre lui, qu'il laisse là, à ce moment-là, son offrande, qu'il va d'abord se réconcilier avec son frère et ensuite qu'il vient faire son offrande. On reçoit tous, on communier, c'est s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Comment peut-on s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ et se désunir entre nous? Voyez, faudrait que nous regardions dans notre âme, au fond. Voilà. La troisième disposition, qui est très importante bien sûr, c'est de nous examiner. Examiner notre conscience avec soin, de peur qu'elle ne soit souillée par le péché mortel. Alors, il est impossible, il n'est pas permis de communier sans être en état de grâce. Et la communion, c'est le sacrement des vivants. Pour des êtres qui vivent, on ne donne pas de la nourriture à un mort. Et bien de même, on ne donne pas de la nourriture, cette nourriture, à une âme qui n'a plus la vie divine, la vie surnaturelle. Donc il faut être en état de grâce. On ne jamais s'approcher, sinon ce sera un sacrilège. Et nous dit Saint Paul, et c'est ce que reprend Saint Thomas, celui qui mange et boit indignement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mange et boit sa propre condamnation. La quatrième disposition qu'il nous faut avoir en nous approchant de la table sainte, c'est de réfléchir au-dedans de nous combien nous sommes indignes de ce bienfait divin. Oui. Ce bienfait divin que nous recevons dans la Sainte Eucharistie. Il nous faut entrer dans les sentiments de ce centurion. Ce centurion qui était venu demander à Jésus la guérison de son serviteur. Et Jésus bien lui dit, oui, je vais venir. Alors lui, pris de crainte, se sentant si indigne de la venue de Jésus en lui, eh bien il lui fait cette déclaration, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison. Mais dites seulement une parole et l'âme de mon serviteur sera guérie. Eh bien, c'est ce que nous fait redire la Sainte Église avant la communion. On le dit, c'est dommage, on le dit des fois un peu trop facilement, en latin, « Domine non sum digno, sutitre sub tectomium, sed tantum dic verbo et san habitur anima mea » trois fois, et expédié. Voyez, nous devrions faire attention à cette belle parole que l'Église nous met, justement, nous faire entrer dans ces sentiments. Mais qui sommes-nous pour recevoir la Sainte Eucharistie, bien qu'elle soit petite, humble? Mais ce n'est pas n'importe quoi. Alors aussi, entrons dans ces sentiments de ce centurion. Demandons au bon Dieu, la dernière, juste avant de recevoir la Sainte Eucharistie, bien de nous donner, que lui, par sa parole, il puisse transformer notre âme et la disposer à recevoir, avec fruit, ce don divin de la Sainte Eucharistie. Oui. Il faudrait aussi que si Jésus nous demandait, comme il a demandé à Saint Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ?» que nous puissions répondre, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Voilà. Quel sentiment il nous faut, quelle disposition il faut que nos cœurs, dans quelle disposition il faut que nos cœurs soient pour la réception de ce sacrement de la Sainte Eucharistie. Ça, c'est la préparation de l'âme. Mais aussi, il faut une préparation de notre corps. On ne s'approche pas de la Sainte Eucharistie n'importe comment. Lorsqu'on reçoit la Sainte Eucharistie, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, eh bien, on doit nous présenter d'une façon digne. Tout d'abord, d'être à jeun. Au minimum une heure. On ne peut pas communier s'il n'y a pas au minimum une heure Ah, je ne sais pas grand-chose. Autrefois, c'était depuis minuit. Et puis, c'est mieux 3 heures, bien sûr. Toute la peine qu'on se donnera, ce sera profitable pour notre âme. Le sacrifice que l'on fera pour communier, eh bien, Dieu en donnera davantage de grâce. Et aussi, il faut avoir une tenue digne pour recevoir notre Seigneur. Si nous avions un rendez-vous avec une haute personnalité, avec un prince, avec une grande autorité, eh bien, nous ne nous permettrions pas de nous présenter sans être habillés parfaitement, correctement, dignement, pour honorer la personne auprès de laquelle on va. Eh bien aussi, il faut que nos corps soient habillés dignement. C'est un peu ce que nous rappelle la parabole de ce maître qui avait fait un festin, puis les invités n'avaient pas accepté de venir pour des raisons matérielles. Alors il avait demandé à ses serviteurs d'aller chercher tout ce qu'il trouvait. Et ensuite, pour aller voir ceux qui étaient présents, il s'est rendu dans la salle et là il voit un homme qui n'avait pas la robe nuptiale. Voyez, c'était une tenue, c'est tout à fait dans les coutumes, c'est tout à fait normal. Il y a une tenue qui convient. Voyez, et qui rend honneur à la personne auprès de qui on va ou qui nous a invités. Bien de même, quand on communie, il faut avoir une tenue digne dans notre habillement. Voyez. On ne déshonore pas Dieu de cette façon. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, les temples de notre Seigneur Jésus-Christ, les tabernacles. Voilà, et bien aussi, il faut savoir respecter ce corps qui est le membre de notre Seigneur Jésus-Christ. Manquer de respect en son corps, c'est manquer de respect à notre Seigneur Jésus-Christ. Ou à moins qu'on ne soit pas les membres de notre Seigneur Jésus-Christ ou les membres du démon. Ça, c'est une autre question. Oui. Alors, il faut que nous sachions, voyez, avoir cette délicatesse, avoir cet honneur que l'on rend à Dieu et ses dispositions pour recevoir. Alors, demandons à la très sainte Vierge Marie, eh bien, qu'elle obtienne de nous, de son divin Fils, comme les apôtres ont obtenu cette grâce d'avoir cette crainte devant la présence de notre Seigneur. Bien nous aussi, d'avoir une certaine crainte, pas servile, mais filiale, en nous approchant de la table sainte, que nous n'y allons pas là avec à la légère. Voyez, Dieu nous demandera compte, voilà, de chacune de nos communions. Je suis venu en toi tel jour, telle date. Voyez, comment m'as-tu reçu? Voilà, comme un morceau de pain quelconque. Voyez, ce serait terrible d'entendre ça à la bouche de notre Seigneur. Alors demandons cette grâce, voyez, et de nous approcher avec l'esprit de foi. Faisons ces exercices. Au début, ça coûtera parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude, mais avec l'exercice, ça viendra. Où est-ce que je vais? Je vais à la table sainte. Qu'est-ce que je vais recevoir? Ce Dieu, le pain des anges, celui que les anges contemplent, honorent, celui qui fait trembler, voyez, qui remplit l'univers entier. Voyez, voilà. Demandons donc cette grâce à Notre-Dame, à ses apôtres et à tous ceux qui se sont approchés, qui ont eu cette grande dévotion à la Sainte Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous venez d'entendre cet évangile qui nous rappelle ce fameux jeudi, cette veille de sa passion. On peut un peu essayer de deviner les pensées de notre Seigneur. Lui qui savait tout ce qui allait se réaliser. Il voyait bien que ses apôtres ne comprenaient pas tout ce qu'il voulait leur exprimer. Ce ne sera que plus tard, lorsqu'ils recevront le Saint-Esprit, que tout s'éclairera à leurs yeux. Cependant, pour nous, qui avons du recul, qui avons toute cette histoire, tout ce passé, qui avons toute cette lumière que l'Église nous donne, bien essayons d'entrer dans ce jeudi saint. Essayons de comprendre un peu Jésus. Jésus qui sent qu'il arrive à la fin de cette vie mortelle, il va ouvrir son cœur à ses apôtres et il va donner les richesses, il va donner des trésors en ce soir, en ce soir du Jeudi Saint. C'est pour nous, mes bien chers fidèles, l'occasion de remercier profondément le bon Dieu. Ah, si nous pouvions estimer ces trésors que Jésus nous donne, ce Jeudi Saint. Jamais sur la terre on ne pourra le comprendre. Même au ciel, on ne le pourra comprendre entièrement. On aura une connaissance bien sûr plus grande que celle que nous pouvons avoir ici, mais jamais parfaitement. Et il faut toujours essayer d'approfondir. Si l'Église nous fait revivre chaque année ces événements, ce n'est pas qu'elle veut nous amener des éléments nouveaux. C'est chaque année le même événement qu'elle nous rappelle, mais pour essayer de nous faire pénétrer toujours davantage. Ou si on peut prendre cette image, pour planter le clou toujours plus loin, pour qu'il soit plus pénétré en nous, que ces vérités soient davantage pénétrées en nous. Voilà. Que nous apprécions toujours plus notre Seigneur et ce qu'il nous apporte. C'est en ce soir qu'il a institué la très sainte Eucharistie, ce sacrement des sacrements, cette grande merveille, ce mystère qui va faire que Dieu se donne à sa créature, que Dieu se donne lui-même à nous. Si nous pouvions rien que comprendre ces quelques mots, Dieu qui se donne à nous, cet être infini que l'univers entier ne peut contenir, qui se donne à chacun de nous entièrement, avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Oui. Pourquoi se donne-t-il à nous? Eh bien, d'une part pour nous manifester son amour, pour nous aider à l'aimer. Deux êtres qui s'aiment, c'est tout à fait dans notre nature, deux êtres qui s'aiment aiment à se retrouver, aiment à être ensemble, aiment à converser ensemble. Même quelquefois, ils restent là, les deux personnes restent l'une près de l'autre sans même parler. Ça suffit. Oui. Eh bien voilà, notre Seigneur se donne à nous pour cela, pour que nous puissions être avec lui et qu'il puisse être avec nous. Il a fait ses délices d'être parmi nous. Ce sacrement qui nous manifeste cet amour du bon Dieu. Aussi, pourquoi se donne-t-il à nous? Eh bien, pour nous rendre meilleurs, pour nous transformer. Lorsque nous prenons de la nourriture, toutes sortes de nourritures, des fruits, des légumes, qu'importe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette nourriture que nous recevons va se transformer en sang, en chair. Et ainsi, notre corps peut se maintenir en vie, peut croître, peut se renouveler, se régénérer. Tandis que quand nous recevons la Sainte Eucharistie, c'est le contraire qui se passe. Ce n'est pas la Sainte Eucharistie qui se transforme en nous, mais c'est nous qui devons nous transformer toujours plus en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'effet merveilleux de cette Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie n'est pas une récompense pour les justes, pour les bons. C'est aussi un médicament pour les malades. Mais ce n'est pas un médicament pour les morts. Les morts n'ont plus besoin de médicaments. Il leur faut autre chose. Ça nous montre qu'il faut être en état de grâce. Voyez. Et il nous faut recevoir donc la Sainte Eucharistie pour nous transformer. Mais si nous ne digérons pas la nourriture que nous recevons, eh bien, nous ne profitons pas De même, la Sainte Eucharistie, il faut en quelque sorte la digérer. Comment ? Eh bien, justement, il faut s'y préparer déjà par le recueillement de l'Esprit. Et une fois avoir reçu la Sainte Eucharistie, eh bien, il faut faire des actes d'adoration, des actes d'amour, des demandes. Il ne faut pas penser à toute autre chose. Il nous faut vraiment profiter de cette présence de Jésus en nous. C'est ainsi qu'elle nous sera profitable. Une seule communion serait capable de faire de nous de grands saints. Une seule. Et combien de communions nous recevons? Et nous faisons si peu de progrès. Nous ne digérons pas les saintes hosties, la Sainte Eucharistie. Nous n'y mettons pas assez les dispositions qu'il faut. Alors, apprécions toujours plus ce grand sacrement qui nous a été donné ce jeudi saint. Et puis, notre Seigneur aussi institue le sacerdoce. Il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas sans les moyens. Donc il va ordonner les apôtres, prêtres, en leur donnant le pouvoir de réaliser, de refaire ce qu'il a fait lorsque vous ferez ceci, ce que j'ai fait en mémoire de moi. Vous renouvellerez ce que j'ai fait, c'est-à-dire ce changement du pain au corps, en son corps, et du changement du vin en son sang. C'est ça que l'Église a toujours fait. Ceux qui ont assisté à la messe chrismale ce matin, on se rappelle encore de cette phrase que disait Monseigneur Tissier. Aujourd'hui, l'Église veut s'organiser pour être une Église sans prêtre, où il n'y aura plus de prêtres, comme chez les protestants. Les pasteurs protestants ne sont pas des prêtres, ce sont des laïcs qui ont fait quelques études, à qui l'on a confié la charge d'âme. Alors ils font chanter, ils font prier, ils lisent un peu l'Évangile, c'est tout. Ils n'ont aucun pouvoir. Est-ce que le prêtre, lui, a le pouvoir justement qui est transmis, qui a été donné par notre Seigneur à ses apôtres et qui a été transmis? On pourrait remonter la filière jusqu'aux apôtres et jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ sans interruption. Il n'y a aucune interruption. C'est un pouvoir qui nous vient de Dieu et qui se transmet. Alors, toute la différence. Alors, aujourd'hui, vous regardez des gens dans l'armée, combien il y a d'aumôniers militaires qui ne sont que des laïcs, catholiques, se disant catholiques. Vous voyez ? On y arrive petit à petit. Alors, on va dire, bien, enfin, il faut suivre les événements qui se présentent, il n'y a plus de vocation. Alors, il faut remplacer par des étudiants en théologie. Alors, on arrive au protestantisme. Alors, on veut faire cette église sans prêtre, où il n'y a plus la foi. Oui. Alors il nous faut remonter à l'esprit de notre Seigneur. Non, ce n'est pas ça qu'il a. C'est pas ainsi qu'il a voulu son église. Alors il nous fait ce cadeau. Encore chaque prêtre, c'est un cadeau d'un prix. Comme disait le curé d'Ars, quand on voit passer un prêtre, on voit passer le bon Dieu. Mais certainement, le prêtre a aussi ses défauts. Puis c'est pour ça qu'il, dans l'offertoire, il dit, il offre cette hostie pour ses défauts, ses péchés, ses innombrables péchés, ses négligences. Saint Paul le dit aussi. Voilà. Mais il faut avoir un regard de foi. C'est celui qui nous donne Dieu, celui qui fait descendre Dieu du ciel sur l'autel. Voilà encore le grand trésor que notre Seigneur nous donne le jeudi saint. Faites ceci, faites ce que j'ai fait en mémoire de moi. Alors les protestants qui sont attachés à la Sainte Écriture vont commenter ça d'une autre façon. Ils vont donner une fausse explication de ce passage. Et pourtant il est si clair. Voilà, ce que j'ai fait, faites-le. Donc, voilà ce pouvoir qui a été donné aux prêtres, de nous donner la Sainte Eucharistie, de nous garder Jésus présent. S'il n'y avait pas le prêtre, nous n'aurions plus Jésus présent sur nos autels, nous n'aurions plus Jésus sur la terre. Voilà un autre grand cadeau que nous fait Jésus ce soir. C'est quelque peu son testament. Il va nous quitter, il va mourir, alors il nous donne ses trésors. Et puis, aussi, il nous fait un commandement nouveau. Il va nous montrer l'exemple de ce commandement. Aimez-vous les uns les autres, mais pas de n'importe quelle façon. Comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés? Oui, comment Jésus nous a aimés. Nous qui étions ses ennemis par le péché, nous nous étions détournés de Dieu. Par le péché originel, nous étions devenus les ennemis de Dieu. Et par les péchés personnels, nous nous sommes révoltés contre Dieu. Nous avons offensé, outragé la majesté infinie. Comment Jésus s'est-il vengé de ces outrages ? Voilà. Eh bien, il est venu en personne sur la terre. Il est venu lui-même sur la terre. S'incarner, vivre au milieu de nous. Montrer l'exemple d'une vie parfaite, d'une vie modèle, exemplaire. Mais ce n'est pas tout. Il est venu prendre sur lui tous nos péchés. Voilà comment il nous a aimés. Il a préféré perdre sa vie, se laisser crucifier comme il l'a été, pour que nous retrouvions la vie surnaturelle, la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne ? C'est la vie de Jésus en nous, la vie divine, pour que nous ayons cette vie divine en nous. Qu'est-ce que c'est que cet amour de Jésus pour nous ? Eh bien voilà, il nous faut méditer cette passion en ces jours, pour imiter cet amour de Jésus. Cet amour que Jésus a eu pour nous, il faut l'avoir aussi pour notre prochain. Alors quelquefois, bien sûr, si on est blessé, si on a eu quelques personnes qui nous ont offensés, alors on a de la peine à pardonner. Ça se comprend. Et dans ce cas-là, bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut regarder le crucifix, puis dire, ben voilà, comment vous avez agi vis-à-vis de ces bourreaux ? Eux, ils ne se sont pas convertis, les bourreaux. Avant que Jésus, lorsque Jésus leur a demandé pardon à son Père pour eux, il ne s'était pas converti, il n'a pas attendu leur conversion pour demander pardon à son Père pour prier pour eux. Voyez. Eh bien, c'est ça, ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà la mesure de l'amour que nous devons avoir pour notre prochain. Et alors, on arrive à aimer nos ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà. Et aussi, il y a tout ce beau discours que notre Seigneur adresse à ses apôtres. Discours de la scène du Jeudi Saint. Il serait trop long de commenter, mais que je vous conseille de lire, de méditer. Ne vous laissez pas distraire ces jours-ci. Détournez-vous, détachez-vous de tous les soucis qui sont, ne faites que l'essentiel, le minimum, voyez. Laissez tous ces tracas mondains. Il y a un trésor là à découvrir, à puiser. Restez recueillis demain matin, par exemple, ou bien ce soir, vous allez rester ici. Restez donc auprès de Jésus. L'Église nous fait vivre heure par heure ce que Jésus a vécu. Alors elle nous permet de rester jusqu'à minuit, le temps où Jésus était dans le jardin des Oliviers. Veillez, priez. Jésus a pris ses apôtres avec lui pour l'accompagner, pour le tenir compagnie. C'est ça que va nous rappeler la Sainte Église par cette présence devant le reposoir. Voilà. Il nous invite, comme il a invité ses apôtres, à rester auprès de lui. Mais ne dormons pas. Voyez, comme les apôtres, notre Seigneur a été peiné de ce qu'ils se sont endormis. Vous dormez. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Eh bien, c'est à nous qu'il fait cette invitation. Et puis demain matin à votre réveil, demandez-vous où est-ce que notre Seigneur il est maintenant. Il a passé cette nuit dans les prisons. Les soldats l'ont méprisé, l'ont roulé par terre. Toutes ces souffrances de la prison, ces souffrances secrètes, on ne sait pas tout ce qu'il a souffert. Il était comme un agneau au milieu des loups haineux. En lisant un peu ces psaumes qui nous montrent ce qu'il a vécu. Et demain matin, eh bien, vous dites, voilà, bien maintenant ils ont dressé le tribunal. Où est-ce qu'il est Jésus ? Où sont les apôtres ? Voilà. Il faut se laisser pénétrer de cela. Suivez demain matin, vous dites, voilà, maintenant peut-être qu'il est chez Pilate. Et puis ensuite, ils l'ont conduit chez Hérode. Hérode qui l'a traité de fou. On revient, la foule qui le hue. Ces gens, parmi ces gens, il y en avait de ceux qui ont été guéris, peut-être même ressuscités, ceux qui ont été nourris, ceux qui ont été nourris du pain miraculeux. Oui. Oui, il faut rester ces jours-ci. Il ne faut pas s'occuper des cocons de Pâques. Laissez-moi ça dans les magasins. Ce n'est pas le moment. Voyez. C'est trop dommage. Il y a tellement de grâce attachée à cela. Voyez, l'Église nous fait revivre ça, mais elle nous donne des grâces particulières à ces mystères. Demain après-midi, il y aura le chemin de la croix. Eh bien, là aussi, suivons Jésus. Quelle peine il s'est donné pour nos âmes. Et nous alors? Oui. Et ensuite, bien samedi aussi, soyez un peu dans le deuil. Ne laissez pas de musique dans vos maisons. Ce n'est pas le temps de la musique. C'est fini. Demain, après-demain, pas de musique. On ne chante pas quand notre Seigneur est en train de monter sur le chemin de la croix. Voyez. Voilà. Samedi donc, soyez dans le recueillement. Et mettez-vous à la place des apôtres. Ils s'étaient attachés à notre Seigneur. Voilà qu'on l'a mis à mort, comme un scélérat entre deux bandits. Oui. Il a été mis au rang des scélérats. Ça a dû être terrible pour les apôtres. Alors il faut essayer de rentrer dans leur esprit. Quel drame pour eux. Et pour la Sainte Vierge, elle était pleine de foi. Elle savait bien tout ce qui devait se passer. Mais c'était très douloureux pour elle aussi de voir avec quel mépris on l'a traité. Méditez un peu tout cela. Voyez. Et alors, la fête de Pâques sera d'autant plus heureuse que vous aurez pénétré, que vous aurez rentré dans les sentiments que vous fait rentrer l'Église. Demain après-midi, nous aurons aussi cette cérémonie où nous aurons le chant de la Passion, les grandes oraisons que l'Église adresse pour tous. Voilà. À la suite de la mort, il y a l'adoration de la croix. Oui. Voilà, mes bien chers fidèles, aimez à méditer cela, aimez à découvrir, à connaître davantage notre Seigneur. Mettez-vous à côté de lui, essayez de le regarder, qu'est-ce qu'il vous dira? Qu'est-ce qu'il vous aurait dit si vous étiez au pied de la croix et qu'il vous aurait peut-être regardé? Quel regard il vous aurait jeté, il aurait jeté sur vous? Oui. Il faut se laisser prendre, il faut vivre cela. Nous avons la chance de pouvoir nous unir à tous ces mystères. Alors méditez, restez donc un peu auprès de Jésus ce soir. Voilà, lisez dans vos missels un peu ces textes que nous donne la liturgie d'aujourd'hui. Reprenez un peu, méditez, parlez avec notre Seigneur, ayez ces colloques. Voilà, ne vous laissez pas prendre par autre chose. Le démon sait bien toutes les grâces que vous pouvez en tirer, donc il va essayer de faire tout ce qu'il pourra pour vous distraire, pour vous faire penser à toutes sortes de choses inutiles, pour vous ravir ce joyau précieux. Voilà, et bien demandons à la Sainte Vierge de nous aider à nous mettre à la suite de Jésus. Demandons à ses apôtres. Et qu'est-ce qu'ils ont dû regretter d'avoir fui notre Seigneur en ces moments-là? Bon. Demandons-leur, eh bien, qu'ils nous fassent apprécier, qu'ils nous fassent suivre Jésus avec générosité. Et aussi, adressons souvent des remerciements de ce que notre Seigneur a voulu, cela par amour pour nous. Oui. La croix, c'est le signe par excellence de l'amour de Dieu pour nous. Il nous rappelle cette charité infinie de Jésus pour nous. Aimons donc à contempler cette croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.